Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour ce moment qui est proposé dans le cadre d'un cycle de rencontres qui, vous avez sans doute eu tous le programme qui, de ces rencontres lire, écrire, penser, conserver dans un monde numérique que nous avons, au cycle qui a été ouvert en novembre et qui va se prolonger jusqu'à la fin janvier avant d'autres moments qui seront proposés dans le courant de l'année 2012. Je tiens à remercier l'Espace Mendès France qui nous accueille cet après-midi et son équipe avec laquelle nous travaillons avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une convention de partenariat qui est établie entre le Centre du Livre et de la Lecture et donc l'Espace Mendès France. Je laisserai le soin à mon collaborateur Bruno Essard-Budaï de présenter, rappeler le programme de cet après-midi, présenter également nos invités. Je dirais simplement, je donne deux petites indications pour vous rappeler des moments qui restent à venir, toujours autour de ce sujet, de l'incidence de cette mutation très profonde qu'induit le numérique dans l'univers du livre et de la lecture et de la création également. Donc deux rendez-vous à venir, l'un à l'initiative complètement de la médiathèque de Poitiers, la semaine prochaine, mardi 17, nous l'avons accueilli, mais simplement dans la communication, donc mardi 17 à 18h, le sujet en est lire et cliquer, initiation aux œuvres interactives sur Internet, et puis un dernier rendez-vous, ici, à nouveau, à l'Espace Mendès France, le 25 janvier, il y a un petit programme d'ailleurs qui a été retiré pour guise de piqûre de rappel, n'hésitez pas à le faire circuler autour de vous. Dernier volet de ce premier programme, et là on abordera la question, des questions plus liées au thème pensée dans un monde numérique, nouveaux savoirs, nouvelles ignorances, avec des intervenants qui ne manqueront pas aussi de porter le débat sur le terrain de l'école et quelles incidences aussi et quelles transformations le numérique aussi, opère dans lorsqu'on pense l'école aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Je vous cède tout de suite la parole et bon après-midi à tout le monde. Je m'excuse de ne pas pouvoir rester avec vous jusqu'à la fin de ces échanges.
Bonjour. Je voudrais avant de commencer, excuser Thierry Clerc qui était prévu pour intervenir aujourd'hui, mais qui, pour des raisons de calendrier qui se sont bouleversées en début d'année, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et vous présenter nos deux intervenantes de cet après-midi. Je commence juste par ordre de passage, on va dire, ce sera plus simple. Patricia Le Gallez, qui est chargée de mission au service du livre et de la lecture du ministère de la Culture et de la Communication, et qui s'occupe plus particulièrement, je prends mon petit carton parce que l'intitulé est assez long, parce que c'est chargé de mission numérisation et conservation au département du patrimoine et de la politique numérique. J'ai rien oublié. Et puis Marion Massol du CINES, le centre d'information d'informatique nationale de l'enseignement supérieur, qui est chef de projet de la plateforme d'archivage du CINES, qu'on appelle en raccourci la plateforme PAC. Donc on va avoir deux heures à peu près pour vous faire les présentations de ce qu'est la conservation numérique, de voir quelle incidence ça peut avoir dans les politiques documentaires et d'archivage. À peu près partagé entre un temps de présentation et un temps de discussion, d'échange qui vous permettront de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Voilà, je crois que sans plus attendre, on peut commencer. Et je vous souhaite une bonne après-midi.
Ça, c'est le son. J'ai un problème avec mon PowerPoint. Non, il ne veut pas l'ouvrir. Oui, il me met un complet.
Il ne veut pas s'ouvrir,
non,
ça
non, non, il ne veut pas s'ouvrir. Allez.
Celui sur la clé, peut-être, en prenant celui sur la
c'est
clé.
Celui de la clé.
Il ne veut pas s'ouvrir le...
En connectant directement la clé.
Pardon ?
Et en lisant la version qui est sur la clé, en lisant la clé elle-même.
Directement.
Pas, ouais, ouais. Essayer.
Peut-être qu'il n'a pas fini de copier totalement le fichier. Ouais. Du coup,
essayer directement.
Et heureusement qu'il y a des sauvegardes numériques comme ça pour donner au document source.
On va essayer celui qui est sur la clé. Donc je vais enfermer tout ça. Et c'est la version. Vous n'avez pas la version pour le Open Office ? Non, vous n'avez pas. Vous avez la suite OpenOffice ?
Oui, oui.
Bah, on va essayer. Voilà. Bah. Bon. Très bien.
Le tour fonctionne.
diaporama. Ah, c'est la version.
F5, sinon.
Comment ? F5, merci. Voilà. On va y arriver. Donc la version PowerPoint ne fonctionne pas, on va utiliser le format OpenOffice. Donc problématique déjà de conservation de données. Donc la conservation numérique, on verra en plusieurs parties. Tout d'abord les enjeux de la conservation numérique. Je vous ferai un petit peu un état des lieux de la conservation numérique dans les bibliothèques. Ensuite, quelles sont les bonnes pratiques à avoir au niveau des formats et des supports. Ensuite, la politique de conservation à mettre en place. Et pour finir, on verra quelques exemples de plateformes ou en tout cas de politiques de conservation mises en place. Alors, les enjeux de la conservation numérique. Tout d'abord, quels sont les documents numériques concernés ? Donc, on a déjà les documents numérisés, issus de numérisation, mais aussi on a des documents qui sont nés numériques, donc aussi bien pour les publications scientifiques, bases de données. Donc, la conservation de ce type de documents se pose particulièrement. Les enjeux, c'est donc de préserver déjà les originaux, donc les documents physiques, mais aussi de préserver les documents qui n'existent que sous forme numérique. Un autre aspect des enjeux de la conservation, c'est aussi de pérenniser les investissements qui sont réalisés, car la conservation numérique coûte cher. Ça suppose du matériel informatique qui peut être conséquent, donc avoir un coût. Enfin, c'est aussi un aspect à prendre en compte dès le début d'un projet de numérisation. Et ce qu'il faut savoir avec la conservation numérique, c'est qu'il n'y a pas de solution prête à l'emploi. Donc, vous n'aurez pas un logiciel qui va vous faire la conservation numérique. C'est tout un ensemble de choses, de pratiques qu'il faut mettre en place et qui vont vous permettre de mener une politique de conservation numérique. Donc, en fait, on se retrouve dans la même problématique que pour les documents physiques. Vous devez mettre en place une politique de conservation. Plus facile avec le papier. Donc, on rejoint, en fait, pour le numérique, on rejoint les mêmes problématiques que pour les documents physique. C'est-à-dire qu'à la fois, on a donc, on suit le circuit du document, il y a la sélection, on a tout ce qui est soit acquisition, soit collecte de documents, et ensuite, nous passons au traitement du document, donc catalogage, équipement. Au niveau du numérique, ça va correspondre aux métadonnées, à l'indexation et à ce qu'on appelle l'empaquetage. Et ensuite, nous avons les aspects de conservation plus particulièrement qui apparaissent. Donc pour les documents physiques, c'est ça à la fois le magasinage, conservation. Au niveau du numérique, on va parler de gestion et de préservation. Et enfin, il y a tout l'aspect de valorisation et de communication que l'on retrouve pour les deux. Donc à la fois, c'est un autre type de document, mais on applique les mêmes méthodes de travail. Donc conserver les documents numériques, c'est surtout les préserver, car en général avec le numérique, lorsqu'on a un problème, qu'on constate un problème sur un document numérique, il est trop tard pour le réparer. Contrairement à un document physique, on peut revenir dessus, avec le numérique, on ne peut plus revenir dessus une fois que la donnée a été effacée. Donc les méthodologies de conservation sont les mêmes, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du document physique ou du numérique. Il faut mettre en place des stratégies préventives, avoir des plans de conservation, de faire aussi des choix en termes de priorité, à la fois en termes de valeur du document, mais aussi de fragilité de la collection. Donc mettre en place une gestion de risque, et mettre en place aussi des alertes et des solutions pour résoudre ces problèmes. Donc les risques majeurs au niveau du numérique, c'est tout d'abord l'obsolescence technologique. Vous voyez qu'on évolue au niveau des supports. Si vous ne migrez pas vos données, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus accéder à un support qui n'est plus utilisé. Personnellement, moi, j'avais fait mon mémoire d'ENSIB sur une disquette, la première disquette que l'on voit, les 5 pouces 1 quart. Je n'ai, à l'époque, évidemment, pas pensé à migrer vers une disquette 3 pouces et demi. Donc, du coup, je n'ai pas pu ensuite la migrer sur un CD-ROM. Donc, je ne peux plus accéder au format numérique de mon mémoire. Heureusement, il me reste le papier. Alors, on se heurte aussi à la fragilité et à la durée de vie des supports. Donc, vous voyez l'évolution des supports qui est continue. Et du coup, on peut ne pas retrouver des fichiers aussi s'ils ne sont pas bien décrits. Donc, on en revient à la description aussi du document, c'est-à-dire que pour retrouver un document dans un catalogue, donc on le décrit. Donc, pour un document numérique, pour y accéder informatiquement, on a besoin de métadonnées. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc une politique de conservation numérique se décline tout d'abord au niveau de l'organisation. Donc il y a chacun a une responsabilité. Donc on en parlera un peu plus loin, aussi bien les bibliothécaires mais aussi les informaticiens. Cela suppose aussi une veille permanente au niveau aussi bien des supports que des formats. Ce qui participe aussi à une bonne politique de conservation numérique, ce sont les nommages de fichiers lorsque vous numérisez. Donc avoir toujours la même règle de nommage pour vous retrouver et pour retrouver le document plus facilement. Et enfin, c'est aussi d'utiliser des formats de pérennisation. Alors, l'état des lieux, DLL, ex-DLL, maintenant Service du Livre et de la Lecture, avait mené une enquête sur la conservation des documents numérisés en bibliothèque municipale. Donc une vingtaine de bibliothèques avaient été consultées. Donc c'était l'objectif était de voir quels supports étaient utilisés, quelles étaient les politiques à la fois de format, de support, de migration de données, de la manière dont ont été conservés ces documents. Ce qui ressortait, c'était que les CD étaient le support privilégié à 80%. Il y avait un respect des recommandations de livraison et de gravure. Le support de prédilection était le CD Gold, mais que les conditions de conservation ne pouvaient être respectées, principalement faute de moyens. Par exemple, il n'y avait pas de double lieu de stockage, de copie régulière ou de transfert de support. De même, on constatait un décalage entre les grandes bibliothèques et les petites bibliothèques. Donc les grandes bénéficiaient de moyens plus importants. Une implication aussi d'informaticiens et de la collectivité sur ces questions-là. tandis que les petites structures se retrouvaient beaucoup plus démunies. Donc on avait un paysage à deux vitesses. On voyait qu'il y avait une prise de conscience de ce qu'était la conservation numérique, avec l'arrivée aussi de plateformes d'archivage numérique, mais aussi que les bibliothèques avaient besoin d'informations, de soutien et de coopération afin de mener à bien cette politique de conservation numérique. Alors, lors du schéma numérique des bibliothèques, vous en avez peut-être entendu parler, qui a été mené en 2009, donc c'était un travail qui a été mené au niveau interministériel, donc aussi bien sur les bibliothèques universitaires que les bibliothèques des collectivités territoriales, donc BM, BDP, qui devait donc faire un état des lieux, mais aussi préconiser donc des recommandations en vue du numérique en bibliothèque. Et dans le schéma, il y avait un groupe de travail sur la conservation numérique, donc qui était piloté par la BNF et le CINES, donc qui est ici. Et donc, on a refait une enquête en fait auprès d'une centaine de bibliothèques, donc à la fois BU et BM, et on avait constaté des évolutions, donc déjà par rapport à ce qu'on avait vu côté BM, c'est-à-dire que le format de stockage évoluait, c'est-à-dire surtout qu'on passait de supports optiques vers des supports magnétiques, que on voyait aussi apparaître une forme de prestation d'archivage ou de conservation qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire une prestation extérieure. De même que la conservation à long terme était davantage prise en compte dans les programmes de numérisation, donc avec la mise en place d'un stockage sur site distant, des transferts de support et une mutualisation des moyens au niveau de la collectivité. Donc la volumétrie observée était pour la moitié des bibliothèques inférieure à 1 téraoctet, donc des petites volumétries, des fonds qui concernaient à 75% de la numérisation rétrospective patrimoniale, et que les formats les plus utilisés étaient le PDF, le JPEG et le TIFF, mais qu'on trouvait aussi des formats propriétaires. Par contre, on constatait aussi une méconnaissance sur les normes et les standards qu'on peut utiliser pour la conservation numérique. Donc, les bonnes pratiques au niveau des supports et des formats. Concernant les supports, alors vous avez plusieurs types de supports. Tout d'abord, les supports magnétiques, avec d'un côté les bandes magnétiques et de l'autre les disques externes, les disques magnétiques, donc les disques durs. Donc les bandes magnétiques se caractérisent surtout par un fort volume de stockage. C'est le support le plus utilisé pour l'archivage, c'est le qui est préconisé. Puisqu'il a en fait il y a une qualité, une fiabilité, et on peut donc y mettre des volumes assez conséquents. Le disque dur est aussi un autre support de stockage utilisé, assez utilisé. Par contre, il a un peu plus de risques technologiques, je dirais, puisqu'en fait la fiabilité et la pérennité de ce support sont peu connues. Des études sont faites sur ce type de support, mais pour l'instant, on n'a pas autant de recul sur les disques optiques ou les bandes pour ce type de support.
L'autre aspect, c'est l'aspect coût. Il ne faut pas oublier que les bandes magnétiques sont beaucoup moins chères que les disques durs. Donc, assez souvent, on va utiliser le disque dur pour la version du document qui a besoin d'être régulièrement communiqué, et la bande magnétique pour la version qui sera conservée et assez peu fréquemment demandé.
Alors, autre type de support, c'est les supports optiques. Donc, on a vu qu'ils étaient les plus utilisés en bibliothèque, donc les CD ou les DVD. Ils se caractérisent par déjà une capacité, enfin une volumétrie beaucoup moindre, notamment le CD. Ce sont des supports grand public, mais la qualité est inégale pour chacun de ces deux supports. Concernant le risque technologique, donc là, il est faible. Ce sont des supports qui sont bien connus, qui sont normalisés, notamment pour le CD. Il y a aussi un observatoire au niveau des disques optiques, donc des CD, qui est le LNE, c'est le Laboratoire National, j'en parle un peu plus tard, qui en fait mène des études sur la pérennité de ce support. Donc on a, vous voyez, deux types de supports, magnétiques ou optiques. Donc le choix du support de stockage, lui, va dépendre en fait de plusieurs choses. Tout d'abord, du volume que vous avez à stocker. Donc si vous avez un très petit volume de 1 giga, on va dire 1 giga, c'est peut-être pas la peine de prendre une bande magnétique. Enfin, il faut voir donc entre d'un côté le volume que vous avez à stocker, le coût aussi du support. Si vous avez 100 CD que vous pouvez mettre sur une bande magnétique, il vaut peut-être mieux prendre une bande magnétique. Donc il faut vraiment réfléchir à ce que l'on a comme type de document à sauvegarder. Autre aspect à prendre en compte aussi, donc, c'est la durée de conservation. Donc, comme on vous l'a dit, si vous avez des documents qui seront peu utilisés, aussi, il est peut-être intéressant d'utiliser une bande magnétique. Les disques optiques ou les disques durs donc, peuvent être utilisés pour un accès beaucoup plus rapide. De même, toute la confidentialité de l'information, la sécurité, donc la fréquence, donc ce que je viens de vous dire sur l'utilisation aussi de votre information, et les possibilités de migration que peut avoir un support, l'évolutivité donc de votre support à surveiller. Donc tous ces aspects doivent être pris en compte lorsque vous devez choisir un support de stockage. De même, les supports sont fragiles. Quel que soit, je pense, le type de support, ils sont tous plus ou moins fragiles. Donc, des mauvaises conditions de stockage ou d'utilisation peuvent aboutir à des destructions rapides de supports. Ils se dégradent, notamment au niveau des CD par l'oxydation. Donc, la durée de vie d'un support de conservation, enfin de stockage, je vais dire plutôt, quel que soit le type de stockage, est estimé à 5 ans. Donc ça veut dire que tous les 5 ans, vous devez migrer de support. Donc justement, il y a des tests, je vous en parlais tout à l'heure, donc des tests faits sur les CD. Notamment c'est la DAF, donc la Direction des Archives de France, l'ancienne Direction des Archives de France au ministère de la Culture, qui a mis en place cet observatoire sur les disques optiques numériques avec le LNE, et ils font des tests sur des CD régulièrement. Donc en 2005, ils ont fait une enquête là, côté à la fois archives et bibliothèques. Et ils se sont aperçus que les CD étaient de qualité variable, qu'il y avait eu peu de pertes d'informations, sauf à la médiathèque de l'agglomération troyenne, qui s'est aperçue lors de cette enquête que 25% de leurs CD étaient illisibles. Donc ça faisait 25% de pertes sur les données numérisées. Donc, le ministère de la Culture, par l'intermédiaire de la DAF, a mis en place un site. Vous aurez le lien, le lien, l'adresse du site des Archives de France, avec un espace donc, dédié à plein d'informations sur le stockage et de recommandations sur le stockage. Donc, notamment sur le choix des CD et des DVD, allié à un graveur. Donc, quel est le couple graveur-CD qui fonctionne le mieux ? Car pour la conservation quand même numérique, ce qu'il faut savoir, c'est aussi, dès le départ, c'est la manière dont est numérisée et gravée l'information. Mieux elle est faite, mieux l'information sera pérennisée. Donc, la DAF a mis aussi en place un guide pour la réalisation de migrations de stocks de CD. Donc vous voulez faire une migration de CD à CD, vous pouvez donc aller rechercher de l'information, comment faire, sur ce site avec ce guide. Et donc elle a mis en place donc, l'observatoire avec le LNE, donc, qui s'appelle le GISDON, sur les CD, afin de voir comment on peut améliorer la qualité de l'information. Donc au niveau des supports, ce qu'il faut faire, c'est d'abord choisir des supports robustes, normalisés. On a vu que le CD est normalisé, aussi bien au niveau de la gravure qu'au niveau de la fabrication. Il faut aussi procéder à des renouvellements réguliers de supports, donc tous les 5 ans, c'est ce qui est recommandé, de surveiller les conditions de stockage, de l'état des supports, et de créer au moins une copie de sauvegarde et de préférence sur un support différent. C'est-à-dire, si vous faites une numérisation que vous stockez sur du CD, prévoyez un autre type de support de stockage de type magnétique, soit sur bande, soit sur disque dur.
Au CINES, nous avons 4 exemplaires de chaque document, 2 qui sont sur disque, 2 qui sont sur bande.
Donc voilà, ce qui suppose aussi donc de faire l'inconvénient, c'est que là vous doublez votre surface de stockage aussi. Donc il faut prévoir derrière l'infrastructure et le coût. Donc quelques recommandations là-dessus, je vais vite passer parce que j'ai une photocopie. On va peut-être pouvoir distribuer sur les recommandations de la DAF justement pour la gravure sur CD. Qui vous sont destinés et que vous pouvez retrouver sur le site, donc ça vous est distribué. Donc je vais passer assez vite, vu le temps qui nous est imparti. Au niveau des périphériques de stockage, donc, pour accompagner vos supports, donc, soit vous pouvez avoir des jukebox pour les CD ou les DVD. Au niveau des bandes magnétiques, donc ce sont des serveurs ou des petits autoloaders en fonction de votre volumétrie. Et sinon, pour les disques durs, donc les baies de stockage. Alors, ce qu'on peut préconiser au niveau des supports et du périphérique de stockage, selon la volumétrie, c'est d'utiliser des DVD ou des CD pour des très petits volumes, donc en raison du coût. Par contre, de passer à une plateforme automatisée lorsque vous dépassez un certain volume, notamment la DAF avait estimé qu'à partir de 2 teraoctets de données, il faut peut-être abandonner donc, les CD, mais passer sur une plateforme automatisée avec des supports magnétiques. Mais là aussi, donc, ça dépend de votre infrastructure informatique et de votre collectivité. Donc voilà un exemple de solution que vous pouvez mettre en place en fonction de votre volumétrie. Donc pour les petits volumes de maximum 50 gigaoctets, utilisation de CD ou de DVD en 2 exemplaires, de faire un contrôle régulier des supports et de recopier votre support. Vous pouvez aussi faire des échantillons de CD pour voir si votre CD est toujours pérenne. Faire appel à un tiers archiveur. Ça commence à se développer au niveau des tiers archiveurs privés. Il y a au niveau public, le CINES le fait pour les BU. La BNF va ouvrir son tiers archivage aussi pour tout type d'établissements. Par contre, lorsque vous passez sur des volumes beaucoup plus importants, donc vous pouvez passer sur des... Là, on peut parler d'une infrastructure magnétique avec des copies multiples et diversifier les technologies de stockage. Donc, conserver sur un site une copie disque, une copie de bande, et sur un autre site distant, une copie bande. Donc là, on arrive à 3 copies. Donc, on n'est pas encore aux 4 copies du CINES. Et date donc de l'archiver la totalité du fond sur des serveurs, avec donc copie sur bande LTO. Alors, après les supports et infrastructures de stockage, il y a les formats. Quel format doit-on prendre en compte pour la conservation pérenne? Tout d'abord, il faut prendre les bons formats de numérisation, tant aussi bien au niveau de la qualité de la numérisation que de la préservation à long terme. Donc il faut bien distinguer d'un côté le format de conservation du format de diffusion, notamment pour les accès aux documents et au temps d'affichage que cela suppose. Donc ce qu'on vous disait tout à l'heure, si vous avez donc des documents uniquement destinés à la conservation, où vous n'aurez pas accès à un accès fréquent sur ce type de documents, ne pas prendre on avait dit prendre les bandes LTO. Ben, au niveau des formats, c'est pareil. Vous avez aussi des formats qui permettent un accès plus rapide car moins d'informations, informations compressées, et des formats donc qui complets avec une information complète qui vont être beaucoup plus importants au niveau de la volumétrie.
C'est surtout significatif pour les fichiers qui ont une grosse volumétrie. Donc les fichiers qui sont audio, vidéo, vous allez avoir une version haute définition pour la conservation et une version basse définition pour pouvoir mettre à disposition des utilisateurs. Sachant que, bien sûr, lorsqu'on a la version haute définition, on est toujours capable de la dégrader pour obtenir la version de diffusion.
Donc les formats, donc pour certains formats, sont secrets. Ce qui fait que si il y a des logiciels qui évoluent, qui disparaissent, on a aussi les données qui risquent de devenir inaccessibles. Donc là, c'est le cas lorsqu'on a du codage secret, donc des formats propriétaires notamment, et que seul un logiciel spécifique est capable de le lire. Donc certains formats sont aussi très rares. Donc il est indispensable d'utiliser des formats dont les spécifications sont publiques et de préférence des formats reconnus comme normes internationales. Il est aussi conseillé d'utiliser des formats couramment utilisés et des migrations aussi seront nécessaires si les documents sont numérisés. Oui, ça c'est logique. Donc le format de conservation doit être un format ouvert dont la documentation est libre d'accès. Un format aussi peut-être secret, mais il pourra être largement documenté disponible, une documentation disponible, et du coup pourra permettre aussi son utilisation en format de conservation. Donc le format doit être aussi largement utilisé, normalisé et aussi indépendant, c'est-à-dire indépendant des autres types de formats et indépendant des plateformes qui les utilisent. C'est-à-dire que pour, par exemple, un format Word, vous avez Microsoft. Donc là, on est dans un format, on est dans une structure complètement propriétaire. Donc il faut arriver à avoir des formats qui sont indépendants des systèmes d'exploitation, par exemple. C'est le cas de la suite OpenOffice. Voilà.
L'idée qui est derrière, c'est que si jamais demain matin, Microsoft, pour une raison X, Y, Z, ne continuait pas à commercialiser son logiciel de lecture, les informaticiens, grâce aux spécifications du format de fichier, les informaticiens donc, seraient capables de créer un second lecteur de ce format de fichier.
Donc, il existe le référentiel général d'interopérabilité, donc on appelle le RGI par son petit nom, qui a été préparé par la Direction générale de la modernisation de l'État, la DGME, qui recense les formats recommandés pour la conservation. Donc ce n'est pas obligatoire, ce sont des recommandations, notamment par type de document. Donc là, vous avez la liste des formats préconisés par le RGI en termes de conservation de données. Donc vous voyez pour l'image par exemple, on peut utiliser du TIFF, du JPEG, du PNG, donc qui est très utilisé je crois par le CINES, hein, qui le conseille énormément. Pour ce qui est du son, vous avez le MP3 par exemple. Alors le MP3 est recommandé, mais pour des documents dont on va pas avoir une conservation à long terme, puisqu'on est sur de la compression, et par contre, dès que l'on passe sur de la conservation à très long terme, d'utiliser le WAV. Donc, vous pouvez trouver de l'information sur une base qui s'appelle la base pronom, où vous avez tous les formats recensés avec leur descriptif. Donc après ce panorama des formats et des supports, donc quelles bonnes pratiques utiliser pour la conservation numérique, nous allons voir quelle est la politique de conservation à mettre en place. Tout d'abord, les problèmes rencontrés, c'est tout d'abord des capacités insuffisantes de stockage, des pertes de données et enfin une expertise insuffisante. Donc, il convient de mettre en place une politique de conservation numérique à son niveau, qui comprend une politique de nommage de fichiers, donc toujours pratiquer la même politique de nommage lorsque vous numérisez, d'avoir les mêmes formats et d'avoir aussi une politique au niveau du stockage et de la migration de vos données. Enfin, la politique de conservation numérique précisera aussi clairement quelles sont les responsabilités de chacun des acteurs sur un programme de numérisation, donc que ce soit bibliothèque, archives d'un côté, mais aussi le service informatique de l'autre. Alors, ce qui participe principalement à une bonne politique de conservation, ce sont les métadonnées, donc qui permettent de retrouver le document grâce à des métadonnées descriptives. Donc on utilise à cet escient le Dublin Core. C'est aussi les métadonnées permettent de gérer le cycle de vie et les droits d'accès aux documents. Donc c'est ce qu'on appelle les métadonnées administratives. Elles permettent aussi de connaître les caractéristiques techniques des documents en vue d'une migration, donc c'est ce qu'on appelle les métadonnées techniques. C'est le poste, il faut savoir, le plus coûteux. Ça correspond, si vous voulez, à l'indexation au niveau des documents physiques. Donc on va, implémenter plutôt des informations autour du document numérique qui permettront de sa recherche, son indexation, son affichage et de pouvoir le gérer au niveau de ses droits d'accès et aussi de son cycle de vie. Donc c'est le poste le plus coûteux lors d'un programme de numérisation.
Littéralement, les métadonnées, ce sont des données sur les données. Donc c'est ce qui va permettre de... Imaginez que vous avez votre disquette, vous avez un fichier dessus. Qu'est-ce qui, 20 ans plus tard, va vous permettre de comprendre le contenu de ce fichier? Ce sont les métadonnées. Parce que je ne sais pas si tout le monde dans la pièce a cette précision-là.
Donc, pour une bonne politique de conservation, il faut faire une veille permanente sur les supports, sur les formats, mais aussi donc sur les procédures de gestion. Un document électronique qui dort court le risque d'être rapidement illisible. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de la médiathèque de Troyes, qui n'avait pas fait de politique de migration de ses CD et qui, lors d'une enquête, a constaté donc des dégradations et de la perte de données. Donc, la conservation numérique est une démarche active. Donc, d'où l'importance d'une organisation à mettre en place. Tout d'abord, une bibliothèque, de son côté, doit définir les principaux acteurs et les fonctions que doit remplir chaque acteur. Tout d'abord, donc, l'entrée, la gestion des données descriptives, donc là, on parle des métadonnées, du stockage, quel type de stockage à mettre en place, quel accès on permet sur nos données, et de planifier la pérennisation. Donc, c'est tout un ensemble de règles d'organisation et techniques à suivre. Dans le cas donc d'une politique de numérisation, donc on prendra en compte la politique de nommage des fichiers, les formats, le stockage, la migration et un outil de suivi de tout cet ensemble. Alors le rôle et les obligations des bibliothèques, c'est tout d'abord de préparer les données et les métadonnées, donc on en revient à l'indexation. Fournir donc tous les éléments nécessaires à la construction de l'arborescence des fichiers, de fournir des informations techniques et de s'assurer que les informations sur les droits d'accès soient présentes. Donc toutes ces informations, vous les demandez lors d'un chantier de numérisation. Il faut bien mesurer donc, le facteur de risque qui est lié au degré d'incomplétude des métadonnées, ce qu'on vous a expliqué là à l'instant. Donc si ces informations ne sont pas là, on ne pourra pas accéder, les moteurs de recherche ou les systèmes informatiques ne pourront pas accéder à vos données. Donc il faut respecter les formats pour garantir la pérennité et couvrir la majorité des besoins. Au niveau des informaticiens, eux aussi ont un rôle à avoir dans une politique de conservation numérique. Tout d'abord, c'est eux qui doivent gérer tout l'ensemble de l'infrastructure de stockage. Ils doivent dupliquer sur les différents types de supports. C'est à eux qu'incombe cette tâche. Donc c'est à eux de faire aussi une veille sur cet aspect, donc à surveiller quels sont aussi les formats qui évoluent, les supports qui évoluent, de mettre en place en fait toute l'infrastructure qui va permettre de pouvoir gérer vos données et de les pérenniser. Donc en fait, vous voyez que la conservation numérique, ce n'est pas une affaire qu'on gère chacun de son côté, mais c'est vraiment un travail à faire en commun entre d'un côté les bibliothécaires et de l'autre les informaticiens. Donc il faut arriver à travailler avec soit le service informatique de votre collectivité ou en tout cas les sensibiliser à ces questions et que leur apport est très important pour la pérennisation de vos données. Ça, j'ai passé. J'ai le temps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la numérisation ne peut se concevoir aujourd'hui sans une prise en compte de la conservation à long terme des documents numérisés. Donc, il n'y a pas de solution unique, mais des solutions en fonction de ses propres objectifs. Donc, un document numérique est un document vivant, en constante évolution, et que la préservation à long terme est avant tout une affaire de bonne pratique. Donc, je vais finir par vous présenter quelques exemples de plateformes qui ont été mises en place. Rapidement, la BNF a mis en place SPAR, son système de préservation et d'archivage réparti. Donc, elle a été définie en 2006 et mise en production à partir de 2008. Donc, l'enjeu pour la BNF, c'était surtout la volumétrie croissante de ces données, puisque d'un côté, elle a les documents numérisés, mais aussi l'archivage du web qui lui incombe. Du coup, elle a une volumétrie croissante à archiver. Ensuite, une politique documentaire uniquement sous forme numérique, donc le dépôt légal du web, mais aussi la presse, le dépôt légal de la presse quotidienne régionale sous format numérique, la dématérialisation de ces supports analogiques, un aspect dont lequel on n'a pas trop parlé, c'est la disparition aussi des moyens de production de microformes, donc obligés de passer d'un support d'un support à un autre et du coup de numériser ces documents microformes. Ça, on va le faire. Donc en fait, les filières qu'archive la BNF, c'est tout d'abord la numérisation de conservation, à la fois d'imprimés, de périodiques et d'images fixes. L'audiovisuel et le multimédia, cette filière est en production depuis l'année dernière. Autre filière qui arrive en production, qui est sur le point d'arriver en production, c'est la tiers-archivage, c'est-à-dire qu'elle va proposer à des collectivités, enfin, une collectivité qui voudrait archiver, ne pas développer sa propre politique de conservation numérique, pourrait s'adresser à la BNF. Par exemple, déjà, les BU le font au niveau du CINES. Enfin, elle a d'autres filières qui vont petit à petit arriver en production, donc être archivées dans SPAR. C'est toute la numérisation de consultation ou de reproduction à la demande, toute la production administrative produite par la bibliothèque, puisqu'elle a délégation par les archives de sa production administrative. C'est à elle de gérer et d'archiver sa production et toute la filière aussi dons et acquisitions. Donc au niveau organisationnel, on n'a pas trop développé ces aspects, mais elle est sur les standards du domaine. Donc on est vraiment sur un modèle très développé au niveau métadonnées, au niveau identifiant pérenne et d'infrastructure. Autre plateforme qui correspond peut-être davantage à vos besoins, c'est donc la médiathèque du Grand Troyes, qui a mis en place un système de stockage électronique. Donc ce n'est pas un système d'archivage aussi poussé que la BNF. Elle stocke, elle ne fait pas de l'archivage, donc la différence avec archivage, hein, c'est derrière, on a un cycle de vie derrière un document. Donc elle a mis en place un système de stockage avec 3 baies de stockage et un robot de sauvegarde. Pour vous donner un exemple de ce que coûte la conservation numérique, c'est au total, ça a coûté 173 000 euros, donc installation, paramétrage inclus, pour une volumétrie de 27 000 gigaoctets. Donc c'est quand même une volumétrie assez importante, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce que coûte la conservation et aussi les coûts de maintenance que cela suppose, car il faut toujours prendre en compte aussi les coûts de maintenance. Et elle estimait même pour 2010 d'arriver au bout de son système de stockage et donc de devoir le développer encore plus vu sa politique de numérisation. Autre type de plateforme, c'est notamment un projet commun entre la bibliothèque municipale et la bibliothèque universitaire de Besançon qui se sont réunis et qui ont travaillé conjointement avec la ville afin de se faire supporter l'archivage de leurs données par les serveurs informatiques de la ville. Donc tout se fait via le réseau de la ville. La volumétrie qui était estimée, la volumétrie à l'époque, quand on les a rencontrés, c'était en 2009 lors du schéma numérique des bibliothèques, était de 4 octets et ils estimaient qu'ils allaient falloir une volumétrie de 15 téraoctets. Autre type de plateforme et donc de projet commun, ce sont les archives départementales des Yvelines avec la bibliothèque municipale des Yvelines qui ont travaillé de concert avec d'un côté un établissement chargé de la numérisation et de la diffusion et un autre chargé de la conservation, de l'archivage pérenne. Donc ça peut être aussi un autre moyen de mettre en place une politique de conservation partagée. Pour finir, je vous ai mis deux slides sur des ouvrages et des sites de référence. Alors l'ouvrage... Vous avez la petite boîte à outils donc, qui ne figure pas sur l'écran, mais que vous connaissez peut-être. Donc la boîte à outils, vous avez déjà un petit chapitre sur la conservation. Sinon, l'ouvrage de référence que je recommande particulièrement, donc, c'est l'ouvrage de Françoise Banaberger de la DAF, Laurent Dupuis de la BNF et Claude Huc qui travaillait au CNES sur l'archivage numérique à long terme, qui détaille, qui est très de façon vulgarisée, je dirais, donc très abordable, ce qu'est l'archivage numérique et comment mener une politique de conservation numérique. Je vous invite à le lire, c'est très intéressant. Si vous voulez mettre en place votre politique, vous y apprendrez plein de choses et on vous donne donc des conseils. C'est vraiment un ouvrage de référence sur le sujet. Sinon, vous avez des sites de référence, notamment sur le site du ministère de la Culture. Il y a un guide pratique sur la conservation à long terme des documents. La Bibliothèque nationale de France aussi a fait tout des rubriques sur la conservation numérique où vous pourrez retrouver aussi des informations. Enfin, donc, le site des Archives de France que je vous ai présenté au cours de cette présentation, donc, pour avoir les informations sur quel type de CD utiliser, les graveurs et les politiques de migration de données. Et autre information, le groupe PIN, pérennisation de l'information numérique, un groupe informel qui regroupe en fait aussi bien des établissements publics tels que donc le ministère de la Culture, le ministère de l'Agriculture par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur, des établissements publics, la BNF, le CINES, c'est même le CINES qui préside ce groupe, mais aussi des prestataires privés. C'est donc un groupe informel français sur le sujet et qui mène une politique de veille sur les différents aspects que l'on a vus tout de suite et met à disposition donc, du public les informations pour que chacun puisse suivre les évolutions sur la conservation numérique. Voilà, je vous remercie.
Ça va venir.
En fait, là, vous allez voir un exemple de plateforme grandeur nature, donc comme un peu le SPAR de la BNF, donc mise en place au niveau de l'enseignement supérieur et dont les bibliothèques universitaires utilisent les services.
Voilà, donc je vais essayer d'éviter de répéter des choses qui ont déjà été dites. Trois objectifs pour cette présentation. D'une part, vous parlez des sources scientifiques et patrimoniales électroniques, d'un point de vue aussi bien du point de vue de leur diversité que de leur valeur et des usages qui peuvent en être faits. Ensuite, reprendre les concepts de base en matière de préservation numérique. Avec les enjeux stratégiques qui leur sont associés, enjeux stratégiques, économiques, donc politiques, en termes de risques, de coûts, d'organisation, du point de vue donc organisationnel et du point de vue responsabilité. Et enfin, je reviendrai sur les aspects environnement institutionnel, qui sont les autres grands acteurs dans le domaine de la préservation numérique, en France et à l'étranger, et les coopérations, les enjeux des coopérations qui sont en train de se faire. Donc je représente le CINES. Le CINES, c'est une institution qui est basée à Montpellier, un établissement public à caractère administratif, qui dépend directement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a pour objectif de fournir aux chercheurs des moyens pour pouvoir les aider justement à travailler, à réaliser leur mission de recherche et d'enseignement. Alors ça se traduit au travers de deux missions principales. La première mission, c'est une mission de calcul intensif, c'est-à-dire on fait régulièrement parler de nous dans la presse parce que nous avons en ce moment une machine qui est la deuxième machine la plus puissante en France. Elle fait quelque chose comme plus de 250 000 milliards d'opérations en une seconde. D'un point de vue pratique, en fait, ça permet de faire notamment des simulations. Pour vous donner un cas concret, lorsqu'il y a eu des tremblements de terre en Italie assez récemment, la machine a été réquisitionnée pour pouvoir calculer les répliques, les répliques de ce séisme. Donc, à côté de cette mission de calcul intensif et donc de production de très gros volumes de données, il y a une mission d'archivage pérenne du patrimoine scientifique. Donc, patrimoine scientifique produit et administratif produit par les établissements qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et je vais développer cette activité-là. Et derrière cette mission-là, il y a notamment le projet, la plateforme PAC, dont je suis le chef de projet. Donc. Et après, donc, à côté de ces deux missions principales, il y a de l'hébergement d'applications qui est fait au CINES. L'information scientifique et technique, puisque c'est notre cœur du métier, essayer de préserver une partie de cette information-là. Si je devais la définir, je dirais que ce sont les informations qui sont produites ou qui sont reçues par les secteurs de l'enseignement et de la recherche. Donc il s'agit de supports documentaires qui contiennent, de par leur constitution, des connaissances et qui sont échangés au sein du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche via des canaux de communication dédiés. Alors ça peut prendre plein de formes diverses. Ça va de la publication, donc avec des revues scientifiques, des thèses, des manuels, des prépublications, des rapports, des ouvrages, etc. Il peut y avoir aussi des formes qui ne sont pas textuelles. Je pense notamment à des banques d'images, à des vidéothèques, à des données statistiques aussi. Et puis de manière plus informelle, il va y avoir des mails, il va y avoir des notes de travail, des cahiers de laboratoire, des données brutes, c'est-à-dire des données par exemple qui vont sortir des calculateurs, des supercalculateurs. Voilà. Cette information scientifique et technique est actuellement en phase de mutation d'une part, et en plus elle a des limites qui sont imprécises. En phase de mutation, pourquoi ? Parce que les supports documentaires en eux-mêmes évoluent, et de même que les canaux de communication. Parce que, comme Patricia a pu le dire, on passe de manière massive au numérique, que ce soit au travers de campagnes de numérisation ou parce que maintenant il y a de plus en plus de documents qui sont nativement numériques. Les simulations, par exemple, ce sont des choses qu'on ne peut pas envisager. Des données brutes, on ne peut pas envisager de les mettre au format papier ou sur un support analogique quelconque. Toutes ces données numériques, il faut savoir qu'elles augmentent de manière qui n'est pas linéaire, mais de manière exponentielle, et qu'on est au tout début d'un phénomène, si bien que beaucoup d'analystes parlent de déluge de données, comme si on allait crouler sous les données. Les limites de l'IST sont relativement imprécises parce que notamment elles sont très liées à d'autres types d'informations qui sont produites en dehors du champ de la recherche. Je pense notamment à des données statistiques, à des données environnementales. Et puis ce phénomène est accentué par les profondes transformations des canaux de communication. Je lisais encore ce matin une étude qui a été produite par je ne sais plus qui. Une étude, c'était Elsevier qui a fait ça, et qui a dit que 80% des chercheurs avaient l'intention d'intégrer les e-books dans leur travail, et que 55% d'entre eux le font actuellement. Chose qui était quasi impensable il y a encore quelques années. Donc la préservation à long terme de l'information scientifique et technique est impérative et nécessaire, mais elle reste compliquée pour deux raisons. La première, c'est parce que justement elle est maintenant électronique, et puis d'autre part parce que le cadre législatif en lui-même est relativement difficile à apprécier, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors pour l'aspect nature électronique, difficulté à préserver l'information dans le temps, il faut savoir que si on ne fait rien, on va perdre l'information. On va perdre l'information, on ne sera plus capable de comprendre l'information, on va perdre la notion d'intégrité. On ne pourra plus exploiter, on ne pourra plus valoriser ce patrimoine-là. Donc, si on veut pouvoir agir sur les risques, sur ces risques-là, il faut mettre en place un certain nombre de procédures d'assurance qualité. Alors, ça va se traduire via des métadonnées pour pouvoir garantir un certain taux de compréhension, sur des formats, sur une politique de stockage, mise en place d'informations de représentation. Imaginez que vous avez un tableau avec des températures, par exemple, au fil du temps, un relevé de température. Si on ne vous dit pas dans 30 ans dans quel contexte est-ce que ces températures ont été prises, ça vous fait presque une belle jambe de les avoir. Après, il y a aussi tout ce qui est donc veille technologique sur les supports, sur les formats, sur les normes et les standards du domaine. Donc, pour essayer d'atténuer les principaux risques, les quatre principaux risques que l'on identifie sur la problématique de la conservation à long terme de documents, si on veut essayer donc de limiter ces risques, le risque zéro n'existe pas, mais on peut essayer de mettre en place un certain nombre de plans d'action pour les contenir. Si on veut faire en sorte que le contenu puisse être compréhensible au fil du temps, il faut pouvoir identifier de manière unique et pérenne un document tout au long du temps, utiliser des métadonnées. Alors ça peut paraître totalement saugrenu, il faut savoir que quand même les agences spatiales qui ont maintenant plusieurs décennies d'expérience derrière elles ont été obligées, donc les NASA et compagnie, de faire appel à des retraités pour aider les nouvelles générations à comprendre les données qu'ils avaient gardées au fil du temps. Donc les métadonnées sont souvent une bonne réponse, mais ne suffisent pas à garantir que vous allez pouvoir préserver l'information dans le temps. Il y a aussi l'aspect donc format de fichier. Il faut privilégier des formats durables, donc des formats qui sont ouverts, qui sont standardisés, si possible, qui sont largement utilisés, et qui sont, je ne sais plus quel ça met, normalisés, je l'ai dit. Enfin, je ne sais plus, il y en avait un quatrième, je l'ai dans le slide. Donc, privilégier des listes de formats. Le CINES a sa propre liste de formats qui est plus ou moins basée sur celle qui vous a été présentée tout à l'heure. Il faut aussi identifier et valider les formats. Il faut savoir que donc le CINES est connu parce qu'il a une mission de préservation des thèses. Tous les étudiants qui doivent déposer, qui doivent passer une thèse, doivent remettre une version soit papier, soit électronique. Et si c'est une version électronique, c'est le CINES qui a la charge de préserver dans le temps la thèse. Eh bien, sur 2011, il y a à peu près 20% des thèses qui nous sont envoyées, qui sont déclarées comme étant des fichiers PDF et qui, en fait, ne sont pas de vrais PDF. Alors, quel est le problème de ça? Ce ne sont pas de vrais PDF parce que les étudiants, souvent, sont des petits étudiants chinois qui ont utilisé des outils un petit peu exotiques pour pouvoir générer le PDF. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ça ne pose pas de problème, on peut très bien stocker l'information. Mais si on veut pouvoir accéder à la thèse dans 50 ans, il va falloir que probablement le PDF dans 50 ans n'existera plus, donc il faudra convertir le PDF vers un autre format. Sauf que si le fichier n'était pas du PDF, on va bien avoir on va avoir pas mal de difficultés à le faire. Donc ça, c'est l'aspect migration logique, conversion de format, qui implique de valider à minima les fichiers et les formats du point de vue du format que vous recevez. Après, il y a la détérioration du support physique. Donc ça a été la gestion du vieillissement des médias est irrémédiable. Juste pour l'anecdote, une personne de la BNF un jour a pris un CD, puisqu'on parlait des CD, a pris une perceuse, s'est amusé à faire un petit trou de 2 mm de diamètre dans un CD, l'a mis dans un lecteur, et bien le lecteur ne se rendait compte de rien. Pourquoi? Parce que comme justement on sait que les supports se dégradent, dans les lecteurs, on a mis en place des algorithmes qui vont venir corriger à la volée l'information et qui vont essayer de pallier le manque de bits, le manque d'informations sur le CD. Alors bien sûr, ces algorithmes, ils marchent jusqu'à un certain point. Donc du jour au lendemain, entre guillemets, vous allez mettre votre CD, et puis dès que le trou, en l'occurrence, dès que le manque d'informations est trop important, le CD ne passe plus et votre lecteur va vous dire « je ne peux absolument rien faire ». Donc si vous n'avez pas pris la peine de répliquer l'information suffisamment et vous ne pourrez pas, la recopier sur de nouveaux supports périodiquement, vous allez être bien en peine pour pouvoir continuer à consulter au fil du temps votre information. Et puis après, donc, il y a tout ce qui est matériel de lecture ou logiciel de lecture qui va disparaître. Pour ceux qui font de l'informatique depuis un certain temps, vous avez peut-être des fichiers sous Word 95 que vous avez peut-être essayé d'ouvrir sous les dernières versions de Microsoft Office et vous avez peut-être eu des surprises. Même chose avec les lecteurs de disquettes. Il y a une dizaine d'années, c'était très commun d'en trouver sur les ordinateurs. Aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver un ordinateur qui est vendu dans le commerce et qui a un lecteur de disquettes. Donc c'est aussi pour ça que des institutions telles que l'INA ont mis en place des services avec des personnes qui sont chargées de veiller à l'entretien des matériels de lecture. Donc la qualité, elle recouvre deux domaines. Elle recouvre effectivement les domaines techniques au travers des métadonnées, au travers des formats de fichiers, au travers de la qualité du stockage. Mais elle va aussi... Il faudra aussi mettre que vous mettiez en place des systèmes de qualité organisationnelle, c'est-à-dire des procédures pour pouvoir notamment documenter les processus métiers. Aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous savez les choix que vous avez faits. Demain matin, est-ce que la nouvelle génération comprendra toujours ? Point d'interrogation. Je prends l'exemple des métadonnées du Blinkor, où vous avez une métadonnée qui s'appelle date. D'un point de vue concret... Quand vous avez un fichier qui... Moi, j'ai une thèse qui arrive. Je vais avoir mon fichier de métadonnées qui arrive. Donc, c'est un fichier XML. J'ai une balise date. La date qui est juste à côté, c'est la date de quoi ? Le 11 janvier 2012, c'est la date de soutenance de la thèse. C'est la date de publication. Donc, il y a, en plus du fait de devoir mentionner, de devoir demander à l'utilisateur de... préciser un certain nombre d'éléments pour pouvoir comprendre la donnée, il va falloir aussi documenter les choix que vous faites. Quelle est la définition que vous associez à la métadonnée date ? Il y a aussi donc, l'aspect gestion des risques, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas, le risque zéro n'existe pas. Par contre, on peut essayer de maintenir un niveau de qualité acceptable. Le seul moyen de maintenir ce niveau de qualité acceptable, c'est d'identifier les risques, les éléments qui, de manière proactive, les éléments qui pourront avoir un impact sur votre politique de préservation. Une fois que vous avez identifié ces risques, il vous faut mettre en place des plans d'action pour contenir ces risques. Et puis la démarche de certification, c'est... quelque chose qui va permettre de valider l'ensemble des procédures organisationnelles et techniques que vous avez mis en place. Ça peut se mettre en place notamment au travers d'audits, la certification. Ça aide beaucoup pour obtenir des budgets auprès des décideurs parce que vous avez un moyen, vous avez quelqu'un d'extérieur qui est venu et qui a dit oui. Par rapport aux objectifs qui se sont fixés, ils sont arrivés à faire quelque chose, ils sont arrivés à atteindre un certain nombre d'objectifs. Bien sûr, la mise en place de ces procédures d'assurance qualité, elle passe par l'adoption de normes et de standards. Pourquoi ? Parce que utiliser le modèle OIS, donc qui est une norme ISO, utiliser... Une norme française telle que la norme Z42013, ce sont des moyens de ne pas réinventer la roue. C'est aussi valable pour les métadonnées. Vous avez le Dublin Core, vous avez tout un tas d'éléments, tout un tas de normes, tout un tas de standards qui existent déjà et qui vous permettront de gagner énormément du point de vue déjà du temps et de l'investissement humain et financier, mais aussi qui vous permettront d'être... interopérable avec d'autres systèmes. Si je devais citer d'autres institutions qui interviennent en matière d'archivage électronique dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche, je dirais que les documents qui sont produits par les universités, par exemple, sont à destination des archives départementales. Les EPA, donc les établissements publics à caractère administratif dépendant de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, donc des établissements type CINES, doivent remettre la production documentaire qu'ils génèrent aux archives nationales. Lorsqu'un chercheur va faire une publication ou va, lorsqu'il va y avoir un site web qui va être consacré à un projet ou à un laboratoire, c'est la BNF, dans le cadre de son dépôt légal, qui va conserver ces informations de manière durable. L'INA, pour tout ce qui est production radiophonique télévisuelle. Pour les films et les images animées, c'est le CNC. Et donc, pour les thèses, c'est le CINES. Pour tout ce qui est électronique, donc ça, c'est pour ce qui est papier. Pour ce qui est électronique, l'original est conservé dans le service compétent. Et lorsque on numérise, puisque assez souvent ce sont les documents concernés, lorsqu'on numérise, la version électronique, elle est laissée donc au choix de l'institution productrice qui va dire oui, j'estime que je peux faire appel à un tiers archiveur, je peux demander au CINES de conserver des éléments. Donc, dans le cas des bibliothèques numérisées, le CINES fait office de tiers archiveur, et donc les bibliothèques universitaires qui ont des programmes de numérisation souvent nous contactent pour qu'on puisse, on préserve durablement les projets qui ont été numérisés. Donc, autres exemples d'acteurs publics dans le domaine de l'archivage numérique, la BNF, le CINES, on en a parlé, le CNES, c'est donc le Centre national d'études spatiales qui a maintenant plusieurs décennies de recul sur la question au travers du projet CIPAD et maintenant le CIPAD NG qui est la nouvelle génération de leur système d'archivage. Le CIAF, donc l'ex-DAF, a mis en place le projet PILAE de plateforme d'archivage électronique. Et puis le ministère de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et des finances ont mis en place les projets, respectivement les projets Arcade et Atlas. Au niveau du CINES, si j'en reviens au CINES et à notre cas particulier pour essayer un petit peu d'illustrer le propos, donc nous avons une mission nationale d'archivage du patrimoine scientifique au travers des thèses depuis la publication d'un arrêté en 2006. Donc, qui fait que nous sommes, lorsqu'un étudiant réalise une thèse au format électronique, elle va être conservée impérativement dans son format natif au sein du CINES. En 2008, le ministère a recentré les activités du CINES autour donc, de deux missions principales, le calcul intensif dont je vous parlais tout à l'heure et l'archivage pérenne. Et donc, par rapport à ça, depuis 2004, on a commencé un petit peu à réfléchir à la question, si bien que maintenant, il y a 11 personnes, 11 équivalents temps plein, dont une archiviste qui travaille sur ces questions de préservation de l'information scientifique et technique, et une infrastructure d'archivage pérenne qui est en exploitation depuis 2006. Les données qui peuvent donc rentrer dans cette plateforme sont des données de plusieurs natures. Il y a les données scientifiques, donc les résultats d'observation, les résultats de calcul, les cahiers de laboratoire, par exemple. Les données pédagogiques, les publications, donc les articles, par exemple, que vont faire les chercheurs. Et puis, il va aussi y avoir des données administratives, des archives intermédiaires. Pensez notamment à des dossiers d'étudiants. Donc, l'objectif du CINES, c'était de mettre rapidement en place une solution qui fonctionne, sachant qu'à l'époque, il y avait assez peu de retours d'expérience. Solution qui soit performante pour pouvoir conserver à moyen et à long terme le patrimoine numérique des établissements. Alors, tout à l'heure, la BNF a été largement parlé de la BNF. Dans ce contexte-là, il faut savoir qu'on est en train de mettre en place une réplication croisée des données. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. La BNF, il faut savoir qu'elle a ses locaux, ses salles machines qui sont au-dessous du niveau de la Seine. Le risque d'inondation n'est pas négligeable. Donc, c'est toujours associé à la gestion des risques dont je parlais tout à l'heure. Nous, on sait que Sines, on n'est pas à l'abri aussi d'une inondation, d'un incendie ou même d'un attentat. Donc, il était intéressant de mettre en place un système de réplication croisée, c'est-à-dire d'avoir des données sur sites distants, avec une distance qui soit suffisamment importante pour pouvoir limiter au maximum le risque de perte définitive de toutes les copies que nous avions. Donc l'idée, ce serait que nous envoyions nos données à la BNF et que la BNF envoie les siennes, enfin un de ses exemplaires, au CINES. La solution à mettre en place au CINES devait être économique et sécurisée. Pour cela, attester de cela, on a obtenu un agrément de la part des Archives de France pour la conservation d'archives publiques courantes et intermédiaires en fin d'année dernière. On a mis en place une démarche de certification du service. On s'est fixé pour objectif d'obtenir donc la certification en 2012-2013, certification ISO 16363. Donc c'est une nouvelle norme. C'est intéressant aussi, j'y pense maintenant, tout ce qui est certification, tout ce qui est référentiel de certification, parce que ça liste un certain nombre de choses qu'il est intéressant de mettre en place. Ça décrit de manière un petit peu plus pratique le processus de qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'il faut que vous vous mettiez en place au niveau de la documentation, au niveau des procédures. Les contraintes que nous avions, c'était de mettre en place une solution générique parce que nous avons des documents qui sont extrêmement diversifiés, tout en se basant sur les normes du domaine pour éviter d'avoir à tout réinventer. Adopter donc des standards, donc ça facilite grandement la démarche qualité pour tout ce qui est conservation. Et puis, essayer de faciliter autant que possible les démarches de veille et de migration, migration physique, donc migration de support, et migration logique, conversion de données d'un format vers un autre. Tout cela, bien sûr, en respectant le contexte législatif archivistique français. Si je devais résumer l'expérience du CINES en quelques dates, je dirais qu'en 2004, donc, il y a eu les premières réflexions sur l'archivage électronique. Le CINES, c'est à peu près une soixantaine d'ingénieurs. Ce sont donc des gens qui ont une expérience plutôt technique. Et puis en 2005, donc, il y a eu une prestation de conseil en archivage électronique qui a été fournie par un cabinet de conseil parisien qui a dit, mais attendez, vous voulez travailler vous voulez développer un service en archivage électronique. Certes, il y a électronique, donc ça veut dire il y a informatique derrière, mais il y a aussi archivage, donc ce serait bien que vous embauchiez une archiviste. Donc en 2006, c'est ce qui a été fait, enfin 2005, enfin bref. En 2006, la première version de la plateforme existait, PAC V1. Donc ça, c'était une plateforme qui a été développée 100% maison pour pouvoir accueillir les premières thèses. Le portail de Percé, c'était des revues numérisées qui sont venues juste après. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que par rapport à des thèses, l'échelle n'est pas, la volumétrie n'est pas du tout la même. Et donc la plateforme d'archivage maison qui servait de prototype, en fait, commençait un petit peu à montrer ses limites. Donc les spécifications techniques, c'est-à-dire la documentation de cette première version de la plateforme, a permis de rédiger le cahier des charges de la plateforme V2. Cette donc, seconde version de PAC est basée sur une solution propriétaire développée par Sun qui s'appelle ArcSys et par un client spécifique pour tout ce qui est vérification, comme quoi les formats sont bien conformes à ce que le CINES attend, etc., etc. Donc ça a aussi voulu dire que toutes les données qui étaient dans la première plateforme ont dû être migrées dans la seconde. Ça aussi, ce sont des aspects qui n'ont pas été évoqués, mais enfin, qui ont été évoqués au travers du changement de format. Mais s'il y a un changement aussi de base de données, c'est-à-dire de système au travers duquel vous allez indexer vos données, il vous faut penser que là aussi, il y aura du travail à faire, donc des investissements humains et financiers associés. 2008, donc recadrage des activités du CINES autour de deux missions principales. Et puis 2010-2011, archivage d'autres services. HAL, c'est-à-dire c'est une archive ouverte, un espace où les chercheurs peuvent déposer des articles. Des données orales, avant 2010, on n'avait pas de fichiers, on n'avait que des fichiers texte et des fichiers images, pas de fichiers audio et vidéo. Là aussi, c'est un gros travail au niveau de la validation des formats. Pour vous donner un ordre d'idée, la mise en place entre la première fois où on a contacté les gens qui avaient HAL, donc qui étaient en charge de l'archive ouverte HAL, et le moment où ils sont entrés en production, où ils ont vraiment versé les documents, il y a eu 6 mois qui se sont écoulés. Entre le moment où on a décidé des formats qu'on allait mettre en place et la fin des tests pour les formats audio et vidéo dans le cadre du projet CRDO avec le TGE Adonis, il y a eu 2 ans qui se sont écoulés. Donc, plus vous avez de formats, plus vous avez de validateurs, d'outils de contrôle à mettre en place dans votre plateforme, plus il va vous falloir de ressources et de temps de tests. Plus vous avez des formats qui sont complexes, plus c'est difficile et coûteux. Et puis, donc, 2010, il y a eu aussi pas mal de livres numérisés, de programmes de numérisation réalisés par des bibliothèques universitaires, QGAS, la Bibliothèque interuniversitaire de santé, la Bibliothèque Sainte-Geneviève, l'École française d'Extrême-Orient, etc. Parallèlement à ça, en termes de qualité, on a obtenu la certification DSA, Data Seal of Approval, qui est une certification donc, européenne, qui se fait selon 16 critères principaux. L'agrément Archives de France, donc c'est un dossier, on a remis un dossier qui fait à peu près 800 pages. La certification ISO 16363, on a commencé la démarche au travers d'un premier audit interne et d'un premier audit externe en 2011. C'est une certification qui est beaucoup plus complexe que le Data Seal of Approval, puisque au lieu d'avoir 16 critères, il y en a 48 principaux. Donc c'est beaucoup plus détaillé. Au niveau des normes et des standards à utiliser, je dirais que la Bible, c'est le modèle OAIS, hein, l'ISO 14721. C'est quelque chose, donc, c'est un modèle conceptuel donc, qui donne d'une part les grandes fonctionnalités, les grandes idées à savoir à avoir en matière d'archivage électronique, et d'autre part qui définit un vocabulaire commun, ce qui peut être extrêmement pratique lorsqu'on parle entre informaticiens, bibliothécaires, archivistes. Par expérience, je sais que ces différentes communautés emploient des mots différents pour parler des mêmes choses, ou emploient les mêmes mots pour parler de choses différentes. Donc dans les deux cas, le modèle OIS est bien parce qu'il fixe un certain nombre une terminologie minimale que l'on peut avoir en commun. La P2A, c'est la politique et pratique d'archivage qui a été définie par une direction qui dépend du Premier ministre, si ma mémoire est bonne, la direction des services de la sécurité des systèmes d'information. Enfin bon, bref. Donc, qui donne, pareil, des grandes idées en matière de politique et de pratique d'archivage. Le CEDA, c'est le standard d'échange de données pour l'archivage électronique, qui décrit des procédures d'échange entre les deux données. Qu'est-ce qu'il y a ? ISAG, ISAR, le Dublin Core. Identifiant unique et pérenne, il n'y a pas eu d'exemples qui ont été donnés. Il y a l'identifiant ARK qui existe, qui a un identifiant unique. Donc au CINES, on a envie cet identifiant-là. De la même manière que vous avez, quand vous avez une URL sur Internet, vous avez quelque chose qui commence par http://www.cines.fr/je-ne-sais-quoi, mon document. Bah là, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que vous avez une première version, une première partie ARK:// qui définit donc le protocole. Une partie ensuite qui est fixe, qui permet d'identifier de manière unique sur la planète votre établissement. Donc le CINES a son numéro, slash, ensuite un identifiant qui correspond donc à l'identifiant du document que nous avons attribué au sein de la plateforme d'archivage du CINES. Ensuite, il y a les empreintes numériques, ça ce sont là aussi... ça a peut-être été évoqué très rapidement. C'est un petit peu comme les empreintes digitales, c'est le même principe. C'est pour vérifier que le fichier n'a pas été victime d'une corruption silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bits qui ont été, perdus au fil du temps. Cette empreinte numérique, en fait, donc c'est un algorithme, c'est une séquence de chiffres, de 20 ou 30 chiffres, et en fait, vous ne pouvez pas avoir deux fichiers qui ont la même empreinte. C'est très pratique, en fait, pour vérifier au fil du temps, d'un point de vue technique, que votre fichier n'a pas bougé. Lorsque vous ingérez le document, vous lancez une première fois votre algorithme, il va vous sortir la valeur, donc l'empreinte numérique, vous la gardez précieusement, vous conservez votre fichier, et puis, au CINES, on a décidé qu'au moins chaque année, il fallait reprendre tous les fichiers un par un, rechecker, refaire donc le calcul d'empreinte, et on vérifie que l'empreinte que l'on obtient est bien identique à celle que l'on a gardée dans notre base de données. S'il y a un différentiel, c'est que le fichier a été corrompu et il faut vite se dépêcher de le recopier sur un nouveau support. Ça, bien sûr, ce sont des procédures que l'on peut mettre en place si on a certains moyens, hein, financiers et humains. Donc le CINES, pour finir rapidement, c'est la plateforme d'un point de vue pratique, à l'heure actuelle, c'est 40 teraoctets de données utiles. Tout à l'heure, je disais qu'on avait en fait 4 exemplaires des données, donc ça multiplié par 4. Elle est en exploitation sous cette forme-là, donc PAC-V2, depuis 2008. Et actuellement, on a, au 1er janvier, on a à peu près 17 teras de données utiles qui sont versées dans cette plateforme. Tout à l'heure, je disais que l'évolution était exponentielle. Il faut savoir que l'an dernier, à la même période, on était à 5-6 teraoctets. Donc, sur 12 mois, on arrive à multiplier par 3 la volumétrie. Tous les projets d'archivage à long terme partagent la même plateforme. Ça permet de diminuer énormément les coûts de mise en place et d'exploitation des projets, de mutualiser l'ensemble de l'infrastructure matérielle et logique, et surtout d'avoir un protocole donc, de versement qui soit générique. Parmi les projets que nous avons en exploitation, donc, il y a les thèses, il y a les revues numérisées du portail Percé, il y a les articles de l'archive ouverte HAL dont je parlais tout à l'heure, les documents du CRDO, donc des documents audio et vidéo, et des ouvrages numérisés de la part de diverses bibliothèques. Actuellement, parallèlement à ça, nous menons donc des travaux avec des travaux sur l'archivage de bases de données avec l'INSERM et de différents types de données de la recherche avec des laboratoires tels que l'ATILF, l'IRHT, etc. Et pour tout ce qui est archivage des données qui issues de nos supercalculateurs, actuellement, c'est beaucoup demandé à un chercheur. Il considère qu'il est payé pour chercher, pas pour conserver, pas pour préserver l'information qu'il fournit. Donc, on a dit, bon, PAC, c'est trop leur demander au niveau des métadonnées, au niveau organisationnel. C'est, pour l'instant, c'est encore trop, ils ne sont pas prêts. Donc, on s'est dit, on va mettre en place un projet intermédiaire avec un niveau de qualité un petit peu moindre, qui sera lui aussi un peu plus adapté en termes de diffusion de la connaissance que peut l'être diffusion de l'information que peut l'être PAC. Et donc cet archivage intermédiaire de données primaires issues des calculateurs s'appelle ISAAC. pour pouvoir préserver convenablement l'information scientifique et technique. Donc il y a des métiers hybrides qui naissent. Initialement, personnellement, j'ai une formation donc d'ingénieur en informatique. Je suis au contact d'une archiviste, donc peu à peu, mes collègues me disent « Marion, mais tu mutes ». Oui, je deviens un être hybride, de la même manière que l'archiviste, elle aussi devient un être hybride, parce qu'elle commence à dialoguer avec le langage XML, elle commence à discuter technique, implémentation Java, architecture technique avec le reste de l'équipe. Donc, c'est vraiment une nouvelle compétence métier qui est en train de se créer grâce à divers échanges au sein de l'équipe et puis aussi avec d'autres communautés telles que PIN, telles que le groupe PIN dont vous parliez. Il faut sensibiliser la communauté à la problématique de la préservation à long terme. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est évident. Les chercheurs considèrent qu'ils sont payés pour chercher. Ça s'arrête là. Les décideurs aussi, actuellement, pensent beaucoup numérisation. Ils n'ont pas encore réalisé que s'il y a 20-25% des documents numérisés qui sont perdus, faute de bonne politique de conservation, eh bien, ce sera autant d'argent qu'il faudra redépenser dans quelques années. Si, bien sûr, les supports papier sont toujours là. Émergence et reconnaissance d'acteurs majeurs dans le domaine de l'archivage pérenne, ça aussi, c'est quelque chose à essayer d'obtenir. Pour terminer avec les perspectives, donc aujourd'hui, le CINES est reconnu comme étant un acteur dans le domaine de la préservation à long terme de documents numériques. Il essaie de partager autant que possible son expérience pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que celles que nous avons pu faire dans le passé. Alors cela, fort d'une mission nationale qui nous a été confiée par le ministère, au travers du projet d'archivage définitif des thèses. Mais on est aussi appelé à jouer un rôle clé dans la réussite au niveau national pour une stratégie de l'archivage pérenne. Ça se traduit au sein de la communauté université-recherche par la mise en place de ce qu'on appelle la bibliothèque scientifique numérique, qui est un énorme programme qui couvre, qui est segmenté, qui couvre quasiment tout de la... des premières réflexions sur la numérisation à la préservation à long terme. Et sur 2011-2012, donc on souhaite poursuivre le développement de l'ensemble des projets et pouvoir aider à sauver un patrimoine qui actuellement n'est pas conservé. Et puis consolider et professionnaliser notre service alors au travers de l'agrément du renouvellement de l'agrément Archives de France, qui est un moyen pour nous d'évaluer la qualité de notre travail via l'obtention de l'accréditation Data Seal of Approval et via tout ce qui est certification. En 2011, on a été pilote l'un des trois centres qui a permis d'évaluer la qualité de la norme ISO 16363, puisqu'avant qu'une norme paraisse à l'ISO, il faut que les auteurs démontrent qu'elle est bien applicable. Donc il y a trois centres en Europe qui ont été chargés, trois en Europe et trois aux États-Unis, qui ont été chargés de prouver que c'était bien applicable, et le CINES a fait partie, a été l'un de ces centres. Voilà, bon, j'espère... J'ai essayé de répéter le moins possible. Je vous remercie de votre attention et attends avec impatience vos questions.
Et bon, on vous remercie en tout cas, les deux. Et je crois qu'il nous reste une petite demi-heure avant des problématiques de transport. Donc, il ne faut pas hésiter à donner des avis, poser des questions, demander des éclaircissements.
Est-ce que la bibliothèque scientifique numérique...
C'est un projet qui a commencé au second semestre 2011, donc qui va se mettre en place petit à petit. Et le CINES est chargé de la coordination pour la partie préservation à long terme des documents.
Oui, on a vu là des exemples de conservation en fait, qui sont assurés par les établissements, essentiellement enfin pour les bibliothèques, qui produiraient les documents. On sait que bien souvent dans les établissements de région, il n'y a pas les capacités en personnel, en locaux, pour avoir des locaux spécifiques. Et donc les établissements font appel à des prestataires pour conserver leurs données. Est-ce que ces prestataires suivent exactement les mêmes règles que celles que vous préconisez? Ou est-ce qu'il y a à être assez vigilant sur les contrats qu'ils proposent? Merci.
Je dirais qu'il faut être vigilant sur ce que proposent les prestataires. Donc, c'est à vous de vous assurer donc, qu'ils proposent l'intégrité des données, puisque là, ils ont une prestation de service, donc à la fois de préservation, mais de ce dont on parlait tout à l'heure, de l'intégrité aussi de vos données. Donc, s'assurer qu'ils proposent l'intégrité des données, qu'ils proposent aussi les services de migration, tout ce qui est lié à l'évolution aussi bien des formats et des supports. Donc en fait, c'est toute la politique que l'on a vue doit être aussi appliquée. Donc vous pouvez prendre exemple sur par exemple la politique qui a défini le CINES pour s'assurer que les prestataires privés aussi proposent ces services. Il y a une fédération nationale la Fédération nationale des tiers de confiance. Donc, qui s'assure que les prestataires répondent à certains critères, notamment donc de qualité. Donc, vous pouvez aller voir sur leur site, quel prestataire est agréé par la FNTC et ce qu'il propose.
L'agrément Archives de France est aussi un moyen de savoir quels sont les prestataires qui proposent quel type de solution. Assez souvent, ils parlent de coffre-fort numérique, pas vraiment d'archivage électronique. C'est-à-dire qu'au niveau des offres, assez souvent, c'est de la préservation du train de bits. Il y a assez peu souvent, trop peu souvent d'ailleurs à mon goût, de validation de format et de proposition de conversion de format au bout d'un certain temps. Alors effectivement, il n'y en a pas besoin s'il faut que vous conserviez vos documents pendant quelques années, parce que la probabilité pour que du PDF qui soit bien formé, qui soit validé bien formé, que ce PDF soit toujours lisible dans 2, 3, 4 ans, cette probabilité-là est relativement importante. Si vous devez conserver le document pendant 20 ou 30 ans, la donne est totalement différente. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que le CINES a mis en place un outil qui s'appelle Facile. C'est facile.cines.fr. C'est un outil de validation des formats, c'est-à-dire que c'est basé exactement sur le même outil qu'on utilise nous pour la plateforme. Et ça vous permet de vérifier, vous avez un PDF. Vous avez un PDF, vous donnez un PDF, il va vous vérifier que le PDF est bien valide et bien conforme aux spécifications du PDF. Alors, je ne sais pas s'il y a je dis le PDF, mais c'est valable en fait pour tous les formats de fichiers que l'on a. Je ne sais sais pas s'il y a une autre question pendant ce temps.
J'ai la suite de la question. Pour les néophytes, il y avait des cahiers des charges de numérisation qui avaient été proposés, en tout cas dans les ministères. Est-ce qu'il y a on envisage, vu les enjeux de la conservation, d'avoir des cahiers des charges aussi de conservation, par exemple, pour des marchés de prestations de conservation ou archivage? Parce que c'est vrai que je pense que ce n'est pas très facile pour les établissements de juger de ce qui est proposé. Et là, l'impression qu'on a, c'est que la documentation, elle est quand même très technique, elle est un peu répartie sur différents sites, alors qu'avoir un cahier des charges type, ça peut être une première étape pour accompagner les établissements dans leur démarche.
À l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'existe pas de cahier des charges type. Vous pouvez déjà débuter par le guide proposé sur le site du ministère de la Culture. Il est indiqué dans le PowerPoint le lien de la MRT, donc qui est des recommandations sur les différents aspects qu'on a abordés et qui donne des préconisations. Donc c'est déjà un premier pas. Moi, je n'ai pas eu encore de connaissance d'une prestation unique de conservation. Pour l'instant, non. C'est à la fois, en même temps qu'une prestation de numérisation. Donc, c'est-à-dire qu'un prestataire de numérisation, maintenant, commence à vous proposer l'hébergement aussi de vos données. Donc là, si vous faites appel dans votre cahier des charges à ce que le prestataire aussi propose cette solution, donc il faut, ce qu'on disait, s'assurer de tout ce dont on vient de parler. Donc, mais ça, c'est vrai que ça se développe, prestation à la fois de numérisation et d'archivage en même temps des données. Un exemple qui me vient en tête qui a pris cette solution, c'est notamment la bibliothèque de l'INHA, avec sa bibliothèque numérique, donc qui, à ma connaissance, est hébergée.
En complément, tout à l'heure, vous parliez des prestataires de numérisation. D'un point de vue pratique, à l'heure actuelle, on a des bibliothèques universitaires qui ont lancé des programmes de numérisation avec différents prestataires, et il s'avère que lorsque les fichiers sont fournis au moment de vouloir les archiver, eh bien, il y a des surprises parce que selon le scanner qui a été utilisé, selon les logiciels qui ont été utilisés, eh bien, les fichiers qui sont censés être au format JPEG ou formatif ne sont réellement pas des fichiers au format JPEG ou au formatif. Ce qui veut dire que, d'où l'intérêt aussi pour nous d'avoir mis en place un outil tel que Facile qui permet à un utilisateur, à un internaute quelconque, de prendre un échantillonnage de ce que lui fournit son prestataire et de vérifier que le travail de numérisation a bien été fait. Parce que si vous acceptez des fichiers, comme certaines bibliothèques universitaires ont pu le faire, sans vérifier parce que vous ne savez pas que les outils existent, le travail de conversion et de remise en forme des fichiers est relativement coûteux et très souvent ne rentre pas dans les compétences exactes des bibliothécaires ou des gens qui travaillent sur ces dossiers-là. Donc là, j'ai pris un fichier quelconque au hasard dans le répertoire image de l'ordinateur et on voit que il serait archivable dans PAC. Mais je vous dis, si actuellement je prends une thèse sur 5, la réponse est non. Ce qui veut dire qu'il faut que la bibliothèque universitaire court après l'étudiant, qu'il essaie de régénérer son format, son fichier au format PDF, etc. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place un outil valide, cet outil facile, pour éviter d'avoir des surprises a posteriori. Avec les étudiants, notamment les étudiants étrangers qui rentrent chez eux, qui ont donné leur thèse à la bibliothèque universitaire, le temps que les métadonnées soient saisies, que le travail d'indexation au sein de l'outil de diffusion soit fait, etc., et que le fichier arrive au CINES, assez souvent le CINES à ce moment-là dit oui, je vais vérifier que c'est bien un format, que c'est bien un PDF ou que c'est bien le format dont le fichier se prévaut. Et si le CINES dit non, et qu'entre-temps l'étudiant soit parti, c'est trop tard. Donc on a mis en place Facile pour obliger tous les étudiants à vérifier que le format était bien, que le CINES ne dirait pas non avant qu'on ait une surprise.
S'il n'y a pas d'autres questions, des avis. Si vous voulez revenir sur les interventions, elles seront en ligne sur le site du Centre du Mur, avec tous les liens évoqués. Pas demain, mais la semaine prochaine. Bien, mais s'il n'y a pas de... Moi, vous vouliez rajouter quelque chose? Bon, mais il nous reste à vous remercier d'être...